Europe 1.
Écoutez le monde changer. Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Lionel Gougelot.
Bonjour à tous, très heureux, vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du débat des grandes voix sur Europe 1. Je suis en compagnie de nos quatre signatures pour une heure de débat, de réflexion, de discussion sur les grands thèmes de l'actualité. Michel Cotta, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Gérard Carrérou. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour Lionel.
Alors, laissez-moi vous présenter le sommaire de ce samedi. D'abord, près de Nantes, la police à nouveau prise pour cible hier. Nouvelle agression particulièrement violente d'une policière municipale. Un assaillant abattu, deux gendarmes blessés.
Le problème de la police, c'est la justice !
Alors qu'Éric Dupond-Moretti faisait face aux policiers cette semaine, le ministre de la Justice répond à la colère policière et défend son institution. Accusé de laxisme, a-t-il convaincu ? Vous nous direz ce que vous en pensez, les grandes voix. À trois semaines des élections régionales, le Rassemblement national conforte ses positions dans les sondages, en tête dans les régions Sud-PACA, Centre-Val-de-Loire, dans le Grand Est, mais aussi en Bourgogne-Franche-Comté. Marine Le Pen parviendra-t-elle à arracher quatre régions ? La stratégie de La République En Marche est-elle en échec ? Vos réponses, les grandes voix. Et puis en attendant ces échéances, eh bien Emmanuel Macron raconte sa France dans une nouvelle interview fleuve accordée au magazine Zadig. Nous sommes à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. Je suis sûr, là encore les grandes voix, que ça va vous faire réagir. Et puis enfin, le Rwanda. Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de la France dans l'enchaînement des massacres qui ont conduit au génocide des Tutsis en 94. Il demande pardon mais ne présente pas d'excuses. Vous nous direz ce que vous en pensez de cette démarche du président de la République jeudi à Kigali. Voilà, vous avez le programme. Merci de nous accompagner. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Et donc le premier sujet de discussion, si vous le voulez bien, les grandes voix, nous allons revenir sur ce nouvel épisode d'ultra-violence contre une représentante, en l'occurrence, hein, des forces de l'ordre, une policière municipale agressée à l'arme blanche hier dans la région de Nantes. Un suspect a été abattu par les gendarmes à l'issue de sa fuite. Un agresseur présenté comme radicalisé, au passé psychiatrique très lourd. C'est à vous, Gérard Carrérou, si vous le voulez bien, que je vais poser la première question. On a l'impression d'assister à une espèce de série noire que rien ne peut stopper, finalement.
Ce n'est pas une impression, là, pour le coup. Ce n'est pas non plus un ressenti. Ce sont simplement des faits. Et c'est ça qui est le plus effrayant pour notre pays, c'est que les faits, il y en a quasiment tous les jours. Alors, je ne vais pas faire, moi, égrainer la litanie qui va d'Ivry, Avignon, Mérignac, jusqu'à Stalingrad... jusqu'à Stalingrad, comme on dit maintenant pour Paris. Je trouve absolument que la violence s'étend et que les barrières sautent les unes après les autres, jour après jour. Et qu'est-ce qu'on a face à ça ? Alors donc ça, c'est donc catastrophique. On peut effectivement parler du délitement de notre société. Et face à ça, on a quelque chose qui ressemble à un jeu de rôle. Un jeu d'apparence de l'exécutif avec deux ministres de qualité, deux personnalités fortes, certes, mais qui nous font un grand numéro.
Alors, on va en reparler dans un instant.
Donc, je conclurai simplement le constat en disant tout le monde voit que ça va de mal en pis et on peut se demander si ça va aller encore pendant un an comme ça.
Catherine Ney.
Oui, moi, ce que je trouve épouvantable, et là qui montre l'impuissance de l'État, parce que les deux derniers attentats contre les policières, celui d'il y a deux jours, bon, c'est un garçon qui est français, d'origine sénégalaise, qui est un malade, qui est un schizophrène, bon, et qui s'est radicalisé en prison, mais il a fait la durée de sa peine. Il n'est pas sorti de prison. Il a fait la durée de sa peine. Donc, comment on peut prévoir? Comment surveiller ? Bien sûr, il faut le surveiller. Donc, c'est très, très difficile. Et celui qui a tué la policière à Rambouillet était un Tunisien qui était lui aussi malade psychologiquement. Donc, on a affaire à des fous qui se radicalisent tôt ou tard. Mais et qui sont et voilà et donc n'importe qui un peu malade peut il peut arriver ça n'importe quand et c'est très difficile pour un État de prévenir une chose pareille.
Michel Cotta, il y a une sorte de fatalité.
D'abord, je trouve que les troubles mentaux ont bon dos, si j'ose dire, parce que très souvent, on commence toujours par, ils présentent des troubles mentaux. Oui, pour se radicaliser complètement,
Non, mais le cas du Sénégalais, enfin du Français, pardon, mais il avait des bosses parce qu'à force de prier contre un tapis, il se cognait la tête sur un tapis. C'est qu'il était quand même un peu secoué. Voilà.
Oui, enfin, ça assure aussi qu'il était radicalisé.
Terminé, Michel Cotin.
Et puis, non, je veux dire, essentiellement, au fond, autour de quoi ça tourne? Ça tourne autour des réponses pénales à des actions contre les détenteurs de l'autorité publique. Ouais. C'est tout, au fond. Ça tourne autour de ça. Et ça explique comment d'abord, il y a deux espèces de terrorisme. Enfin, deux espèces pas de terrorisme. Il y a un, le terrorisme. La délinquance. Ouais. Bon, et ça, c'est pas pareil. Enfin, c'est la réponse pénale. Par conséquent, ça explique comment les deux ministres sont effectivement face à face, en train de se débrouiller avec la loi, parce qu'après tout, si la loi embête, il n'y a qu'à changer la loi, et avec les policiers et les magistrats qui dépendent d'eux.
Alors justement, dans ce contexte, Éric Dupond-Moretti faisait face cette semaine aux policiers dans le cadre d'une rencontre du Beauvau de la Sécurité, des policiers demandeurs de plus de sévérité, et il a tenu à répondre justement à ceux qui estiment que le problème de la police, c'est la justice.
Cette scène où l'on voit la justice balayer une scène de crime, elle est indigne. La liberté syndicale, elle n'est pas totale. Elle est essentielle, elle est importante, mais pas au détriment de la République. Et pardon pour cette familiarité, mais si l'on désingue les institutions de la République, alors on désingue la République. Je veux redire ici que la force sans la justice, c'est la tyrannie, et la justice sans la force, ça n'est rien.
Charles Villeneuve, il vous a convaincu, Éric Dupond-Moretti, dans cette sortie?
Écoutez, moi, je n'étais pas au Beauvau de la Sécurité, mais j'ai pris le témoignage, notamment des syndicats de policiers et aussi des gendarmes, et du rapporteur de la loi, membre de la commission des lois, du sénateur, qui suit le Beauvau de la Sécurité. Et c'est vrai que ce débat et que la présence de Dupond-Moretti, qui était attendue par certains et d'autres qui étaient persuadés qu'il ne viendrait pas. Or, il est venu. C'était parti pour un débat, si vous voulez, que tous pensaient houleux et âpre. Et Dupond-Moretti s'est appliqué à éteindre les feux en répondant point par point avec arguments et chiffres à l'appui à chacune des statistiques affichées par les syndicats de policiers, qu'il n'a pas convaincu. Mais,
bah non, voilà.
Mais il a convaincu, quand même, avec son sens du combat, beaucoup de gendarmes aussi, qui ont assisté, bien que, si vous voulez, eux considèrent comme les policiers, que notamment sur le plan de la délinquance des mineurs, il y a un problème énorme qui est en train de se poser en France. Vous savez qu'à Bordeaux, 40% de la délinquance des délits sont commis par des mineurs non accompagnés, qui viennent tous d'Afrique du Nord et qui parviennent avec des filières qui sont organisées sur ce plan-là. Donc, si vous voulez, pour l'instant, on est resté en l'état. Mais il faut aussi ajouter et reconnaître, quand vous examinez de près l'appareil judiciaire, qu'il est en voie d'implosion, complètement. Parce qu'ils n'ont quasiment plus de moyens, premièrement, et deuxièmement, qu'ils sont en train de gérer une avalanche de nouvelles lois en permanence, chaque fois qu'il y a un nouveau ministre.
Et ils n'arrivent pas à digérer. Gérard Carrero.
Oui, alors moi je ne suis pas du tout convaincu. J'ai repris très soigneusement tous les chiffres que M. Dupond-Moretti a alignés à l'Assemblée nationale. Et j'appelle ça de la... Comment dire, pour être modéré, pour rester dans un...
S'il vous plaît.
C'est du grand baratin. Voilà, et c'est très modéré ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de donner un chiffre, il y a de plus en plus de condamnés. Oui, c'est vrai. Il y a de plus en plus d'heures de prison, si vous voulez, qui sont prononcées. Oui, c'est vrai. Mais ce que nous dit pas le chiffre qui est essentiel et qui explique pourquoi, parce qu'il n'y a pas de hasard, si 81% des Français, dans un sondage Elabe, pensent que la justice est laxiste, il y a bien quelque chose quand même. Eh bien, pourquoi? Parce que les peines sont souvent prononcées. Je ne mets pas en cause tous les juges, ni ceux qui prononcent des peines. Il y en a qui prononcent des peines très, très adaptées, très dures même, ou pas dures, mais je veux dire adaptées. Mais le problème, c'est l'exécution des peines ne correspond plus à une réalité. Pourquoi? Pour une seule raison, il suffira après d'y revenir sur la justice, par exemple, des mineurs, parce que ces peines ne sont pas appliquées. On ne met pas en prison on ne met jamais en prison, y compris quand la prison est prononcée. Il y a toujours un moyen, un biais ou des excuses qui permettent au juge de ne pas prononcer la prison. Catherine, et c'est ça que le peuple ne veut plus.
Bon, j'en reviens sur la prestation de Dupond-Moretti, parce qu'il est, il est quand même, il est arrivé à 9h, il est parti à 13h30. Donc les policiers ont dit, ils ne se moquent pas de nous. Mais il parlait devant eux comme un avocat d'assises, vous voyez. Il voulait les convaincre, d'ailleurs, il était un peu agressif dans le ton, et il disait, je m'explique. Et il leur expliquait, ben non, la tôle résout pas tous les problèmes. Enfin, eux, ils voulaient des réponses simples, et il leur a donné des réponses de pénalistes. Mais ils ont quand même été flattés, parce que c'était un grand numéro. En tous les cas, il n'a pas été dans la séduction du tout, contrairement à Darmanin, qui, lorsqu'il est avec les policiers, il les cajote, il les pelote. En fait, ils ne sont pas dans le même rôle. Mais ça s'est quand même bien passé. Oui.
On marque une première pause et je vous donne la parole sur ce sujet, Michel Cotta, juste après.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Lionel Gougelot.
Les grandes voix d'Europe 1 jusqu'à 11h sur Europe 1. Discussion animée entre nos grandes voix. Il y a les avocats de l'avocat Éric Dupond-Moretti et puis les procureurs contre le ministre de la Justice.
Non, là tu exagères. Non.
D'autant que quand on voit la nouvelle loi qui a donc été adoptée en première lecture sur la loi de confiance sur la justice, les législateurs ont quand même tenu compte d'abord de la volonté de ne pas limiter les réductions de peine pour les auteurs d'agressions contre les forces de l'ordre, ce qui est important. Ils ont créé une peine de sûreté de 30 ans pour les auteurs de crimes contre les policiers. Et quant à la suppression du fameux rappel à la loi, il n'est pas encore remplacé, mais il sera remplacé par
un travail non rémunéré.
J'aurais
bien trouvé
autant de choses dans lesquelles. Non, mais la peine de 30 ans, les policiers l'attendaient, elle est dans la loi, il ne faut pas le nier, c'est tout. D'accord. Alors que le ministre de la Justice ait tenu compte des revendications des policiers dans sa loi, ça me paraît évident. Voilà, pas suffisant, peut-être, mais évident.
Mais ça ne concerne pas les mineurs, ça. Alors, or, moi, je voudrais juste dire un mot.
C'est un cas particulier, les mineurs.
Je voudrais dire un mot de la justice des mineurs. Et je me fonde sur le rapport d'une députée socialiste qui s'appelle Madame Cécile Untermaier. Rapport qu'elle a fait en 2019, ça ne remonte pas au calende grec, et où elle donne effectivement un certain nombre de détails sur l'aggravation des infractions des mineurs, rajeunissement des délinquants, tout ça, on le sait, multiplication des bandes organisées, tout ça, on le sait. Mais le chiffre important, alternatives aux poursuites, les mineurs poursuivis, 55%. Ça veut dire qu'il y a 55% qui ne sont pas poursuivis pénalement. Ceux qui sont poursuivis, 36%, un tiers, un gros tiers, dont la moitié seulement donne lieu à des sanctions pénales. La moitié de 36%, si je t'ai compté, ça fait 18. Vous voyez, 18% alors, qui donnent lieu à des
sanctions pénales. Tu auras ton certificat d'études.
Sanctions pénales, et avec un taux élevé de récidive et de réitération, 17,5%. Et quand les mineurs passent à un peu plus que 17 ans, on arrive à 27%. Ce sont des chiffres officiels.
Charles.
Non, parce que c'est là, si vous voulez, où il y a discorde entre la police et la justice. La justice des mineurs est l'éternel objet de discorde entre la police et la justice. La justice insiste sur le diptyque éducation-sanction. Quand la police et toutes les forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire police et gendarmerie d'ailleurs, souhaitent une sanction pénale immédiate dès la première infraction. Parce que sinon, on n'y arrivera pas, selon eux. Et donc, cette discorde, elle est tout aussi vive hier qu'aujourd'hui.
Oui. Elle est fondamentale, même. Enfin, c'est pour ça qu'on dit jeu de rôle. Ce n'est pas un jeu de rôle, ce sont deux rôles vraiment différents.
C'est pas drôle, en tout cas.
Et ce n'est pas nouveau, d'ailleurs, dans la logique de la Ve République. On passe à la politique, si vous le voulez bien, les grandes voix, parce que dans trois semaines, ce sont les élections régionales. Alors, depuis quelque temps, on est abreuvé de sondages qui laissent présager une forte poussée du Rassemblement national dans plusieurs régions. Je le disais en introduction, en Sud-PACA, Centre-Val-de-Loire, région Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, un Rassemblement national également menaçant dans les Hauts-de-France. Le premier danger pour voir arriver le Front National aux affaires dans une région, ça serait la région Sud-PACA, Charles Villeneuve ?
Oui. Oui, mais en même temps, moi j'en reviens, justement. Et j'ai beaucoup parlé avec pas mal de militants, aussi bien de gauche que des Républicains et que du Front National. Manifestement, il y a, si vous voulez, un trouble. Parce qu'il y a une poussée, et je pense qu'elle sera nationale en faveur du Front National, pas seulement en PACA. Mais il y a un trouble compte tenu, si vous voulez, du souk, il n'y a pas d'autre mot, qu'a mis notamment toutes les manœuvres du président de la République. Ils ne savent plus où ils en sont. Et je crains, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti en discutant avec pas mal, notamment de militants des Républicains, qu'il y ait une abstention assez forte au premier tour. Peut-être pas au second, mais au premier tour. Et manifestement, si vous voulez, c'est bien ce que nous avions dit d'ailleurs précédemment, ici, dans les grandes voix, c'est que Thierry Mariani n'est pas un candidat comme les autres du Front National. Il ne fait pas peur. C'est un bébé Chirac, ne l'oublions pas. C'est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy.
C'était un copain de Muselier, surtout, c'est ça qui est extraordinaire. Mais Catherine. Le problème, c'est est-ce que, je veux dire, en 2015, c'était le maire de Nice qui a été élu à la tête de la région, Christian mais parce Sarkozy. Que la gauche s'est désistée. Ouais. Elle a accepté de ne pas avoir d'élu. Même chose dans le Nord. Ouais. Le problème aujourd'hui pour Marine Le Pen, c'est est-ce que la gauche va encore se maintenir ou pas, ou alors négocier entre les deux tours des places sur la liste du vainqueur possible. Mmh. Vous voyez, j'en sais rien. Mmh. Mais voilà, autrement, c'est pas, elle va monter, mais ce n'est pas sûr du tout qu'elle soit élue.
Il y a deux cas, il y a aussi deux cas différents, même trois. Alors, le cas du Nord des Hauts-de-France, c'est donc Xavier Bertrand. Il est effectivement talonné par le candidat du Rassemblement national, mais apparemment, les sondages donnent son cadre angulaire. Moi, je vois mal comment, au deuxième tour, la République En Marche peut se maintenir pour risque à faire passer le Front National. Donc, je trouve que là, de ce point de vue-là, les Hauts-de-France, ça peut rester à Xavier Bertrand.
Mais en Xavier revanche, Bertrand ne fera pas d'alliance.
Oui, justement.
Quelle
oui,
qu'elle
oui,
soit.
Il ne fera pas d'alliance.
Deux
autres départements. La Bourgogne-Franche-Comté, Marine Le Pen dit elle-même que c'est la région, le top 3 des régions gagnables. Là, le RN est arrivé effectivement en tête, arrive en tête dans les sondages selon Ipsos. Et puis, il y a le Centre-Val de Loire. Alors là, c'est vraiment un exemple typique. La gauche et la droite sont complètement éclatés, chacun de leur côté. Ils ont maintenu leurs listes différentes. Et donc, le Front National peut naturellement, le Rassemblement National peut naturellement protester.
La question, c'est les Républicains ont 7 régions, est-ce qu'ils vont garder les 7? Les Socialistes ont 5 régions, est-ce qu'ils vont garder les 5? Vous voyez? Bon, voilà, c'est ça.
Je veux revenir sur la notion le phénomène de l'abstention, Gérard. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment jouer en faveur du Rassemblement national?
Écoutez, je ne sais pas. Je pense que Charles a observé qu'il y avait un sentiment d'abstention qui commençait. On sent que les gens, ceux qui sont déboussolés, ils ne savent pas très bien pour qui voter. Ils se disent, on verra au deuxième tour. Ça risque d'être effectivement au premier tour une forte abstention. Mais à partir de là, moi je vais simplement résumer, globaliser ce qui a été dit par mes amis.
Je globalise,
merci. Oui, si vous voulez.
Synthèse.
S'il y a un premier tour avec des poussées très fortes en faveur du Rassemblement national, ce qui est possible, c'est pas sûr, mais c'est possible. Dans ce cas-là, y aura-t-il, c'est la simple question, y aura-t-il au deuxième tour une sorte, qu'on l'appelle comme ça ou que ça revienne au même, une sorte de réflexe de type Front Républicain, c'est-à-dire tout le monde
c'est
pour faire barrage au Front
c'est
National au deuxième
sujet.
Tour. Si c'est le cas, s'il y a cette esquisse de sentiment qui fait barrage, à ce moment-là, le Front National peut-être, le Rassemblement National peut-être ne gagnera pas de région, ou peut-être n'en gagnera-t-il qu'une, ou deux, et non pas trois ou quatre. Ça, c'est le premier cas. Mais dans ce cas-là, effectivement, c'est plutôt une bonne affaire, effectivement, pour Macron, pour la prochaine présidentielle. Parce qu'on dira, voyez, quand même, les électeurs ont fait barrage au Front National.
Oui.
Et s'il n'y a pas ce réflexe, à ce moment-là, le Front National ou le Rassemblement National gagnera une, deux, trois, voire quatre, pourquoi pas, régions. Et dans ce cas-là, la droite aura explosé. Et dans ce cas-là, on dira, il n'y a plus que Macron et le sursaut pour Macron pour le deuxième tour de la présidentielle.
On marque une pause et je vous promets, Charles
Villeneuve.
C'est
Villeneuve, une belle histoire, c'est un bon roman.
Moi, j'ai encore quelque chose à dire.
Oui, ne vous inquiétez pas, on a tout le temps et on a hâte de vous entendre. Tout de suite.
Okay.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h. Lionel Gougelot.
Le débat des grandes voix avec Catherine et Michel Cotta, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve jusqu'à 11h. On continue de discuter de ces élections régionales qui approchent à grands pas. Charles Villeneuve, vous vouliez compléter le propos de notre ami Gérard Carrérou.
Oui, non mais si vous voulez, ce qui est très intéressant dans ces élections, dans ce tour de chauffe, comme jamais les régionales n'ont été par rapport aux présidentielles. Oui. Parce que je pense qu'on en tirera une leçon. C'est qu'à 3 semaines des régionales et à moins d'un an des présidentielles, les idées de prédilection du Rassemblement national se sont banalisées et font désormais, si vous voulez, partie intégrante
elle s'impose dans
du
débat
dominant. La sécurité, l'islamisme, l'immigration, l'identité nationale, le maintien de l'ordre. Une fois que vous avez rendu acceptable cette rhétorique et les arguments autour de ces thèmes, ils restent et ils s'imposent dans le débat public, qui sera aussi celui des présidentielles.
C'est votre avis, Michel Cotard ?
Non, mais d'autant que, quand on suit de près la stratégie du Rassemblement national, on s'aperçoit qu'ils prennent quand même le maximum de candidats qui étaient avant LR. Alors, on peut faire la liste. Hein. Oui. On a le frère du navigateur, Olivier de Kersauzon, dans le Morbihan. Yves Bonnet, vous savez, qui est l'ancien... qui a été l'ancien préfet
en
Normandie, Gilles Platret, Ludovic Labert. Bon, donc il y a vraiment une chasse de la part du Rassemblement national aux membres de LR qui sont plutôt sur leurs frontières. Mm-hmm. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une porosité de l'électorat, tous les sondages le disent, il y a une porosité de l'électorat entre la droite de LR et le Front National et le Mouvement National.
Donc, faire une remarque. C'est-à-dire, quand Michel dit, c'est vrai que Marine Le Pen fait venir des LR à elle et tout ça, mais ce parti qui n'a plus de tête, qui n'a plus de candidat, est quand même un réservoir pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit bien que Emmanuel Macron, au gouvernement, les meilleurs, c'est souvent des anciens LR, voyez, et Marine Le Pen, elle prend des LR. Donc, le Parti républicain est devenu une pouponnière, à la fois pour Macron et à la fois pour l'extrême droite. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va rester au LR
Et c'est en cela qu'il a peut-être dynamité, si vous voulez, les Républicains, le président de la République. Mais il est en train de dynamiter le Front républicain. C'est-à-dire justement ce réflexe qui faisait que tout le monde se rassemblait contre le Rassemblement national. Et à PACA, ça risque de jouer. Vous avez vu que, de toute façon, si même les socialistes se retiraient, ils sont à 50-50. Ils sont bord à bord, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Je vous propose de passer maintenant à l'interview d'Emmanuel Macron dans la revue Zadig cette semaine. 21 pages d'interview dans laquelle le président de la République raconte sa France, ses vacances d'enfance dans les Hautes-Pyrénées, ses origines amiénoises bien sûr, sa passion pour Marseille, la Seine-Saint-Denis et puis la Californie sans la mer. On dit souvent que le président de la République était déconnecté du pays réel. Est-ce qu'il tente de nous convaincre du contraire dans cette interview, Catherine Ney ?
Bon, oui, qu'il connaît la France, il voyage, il connaît la Bretagne, il aime Clermont-Ferrand, enfin, il fait tout l'Hexagone. Vous voyez, il nous fait un peu des racines et des ailes pour montrer « je ne suis pas celui que vous croyez, je ne suis pas arrivé sans connaître la France ». Mais il fait ça dans cette revue qui s'appelle Zadig.
Vous faites beaucoup rire Charles Villeneuve. Hein,
Zadig, alors, dont on parle, quand le président parle, on a dit « ben tiens, on va acheter le truc ». Bon, moi, je l'ai acheté 19 euros. Alors, moi, je me dis, c'est quand même élitiste parce que est-ce que... C'est quand même cher, vous voyez, pour le vulgum pécus, vous voyez. Bon, même c'est cher, moi j'ai trouvé que c'était cher pour moi aussi.
C'est pas intéressant politiquement.
Bon, c'est très intéressant. Donc, il veut montrer qu'il connaît la France. Il parle de lui, il parle de son enfance, de cet enfant qui est pas. Il est parti à 16 ans à Paris tout seul dans une petite chambre. Pourquoi ? Parce que ses parents voulaient l'éloigner, voulaient pas qu'il fréquente Brigitte, hein, faut se dire ce qui est. Bon, il parle de sa grand-mère, de ses racines, de tout ça. Il met un peu de lui, un peu de chair, qui connaît la France, qui comprend les gilets jaunes. Et puis, il a une vision optimiste des choses. C'est-à-dire que nous, on parle déclin. Vous voyez, tous les jours, on dit le déclin, il n'y a pas d'autorité. Lui, il y voit la renaissance. Et puis, il parle de la Seine-Saint-Denis, où quand même, il y a un échec de la politique depuis longtemps des politiques. D'ailleurs, il fallait lire le rapport de Pierre Cornu-Gentil, qui est un député qui a expliqué comment la Seine-Saint-Denis, on s'en est pas occupé. Remarquable travail, et qui montre que c'est un département où à 100 000 personnes près, le préfet ne sait pas qui il y a en Seine-Saint-Denis. Donc, lui, il y voit la Californie sans la mer. C'est vrai qu'il y a des start-up. Mais voilà, c'est la vision optimiste d'un homme qui veut se présenter de manière optimiste aux Français.
Michel Cotard. Et ensuite,
j'ai retenu, je suis tout à fait d'accord avec Catherine, mais j'ai retenu quelque chose d'important dans son analyse de l'abandon d'une partie de la France. On dit en fond, de 1940 à 1980, on a voulu faire nation, France, etc. Et ça a marché. Et puis, à partir de 80, les choses sont un peu délitées. Le pouvoir s'est recentralisé. On a créé ces grandes régions qui, effectivement, éloignent peut-être les Français de leur capitale. Et le problème du travail s'est posé. Bon, il y a une vraie analyse de la désindustrialisation qui est intéressante, qui est en plus reprise en ce moment. Ouais. Hein. Donc, et donc, ça qui est intéressant, et en plus, qu'on ne peut pas mettre au seul compte d'Emmanuel Macron, parce que c'est pas lui qui a... cette France a été désindustrialisée avec l'accord et de la gauche et de la droite depuis 40 ans.
Autant de thèmes qui risquent d'être d'ailleurs des thèmes de campagne campagne qui arrive. Oui. On marque une pause et on se retrouve dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1. Lionel Gougelot.
Nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec Michel Cotta, Charles Villeneuve, Gérard Carrérot et Catherine Ney. Catherine Ney, avec la rigueur qui est la vôtre, oui, je sens que vous voulez faire une correction.
Oui, parce que j'ai peut-être dit Pierre Cornu-Gentil alors que c'est François Cornu-Gentil qui est député de Haute-Marne, LR, et qui avait fait ce fameux rapport et qui a écrit un livre que je vous engage à lire qui s'appelle « Savoir pour pouvoir ».
C'est bien noté. Gérard Carrérou, j'ai l'impression que la formule de la Seine-Saint-Denis qui est la Californie sans la mer, ça vous chatouille depuis quelque temps.
Ah, ça me chatouille pas du tout, ça m'a fait hurler de rire. C'est pas toujours le cas quand j'écoute ou quand je lis du Macron. Mais ça m'a fait hurler de rire parce que la Seine-Saint-Denis avec son grand stade, ses grands aéroports, il manque, c'est comme le boulevard Saint-Michel prolongé jusqu'à la mer. Bon, mais je me suis dit, au fond, moi je connais bien la Californie. En long, en large et en travers, j'y suis allé une trentaine de fois et je connais bien les villes et la campagne.
Moi, je connais bien Saint-Denis.
Mais je connais peut-être. Non, alors, on me dira, mais vous connaissez peut-être moins bien la Seine-Saint-Denis. Et c'est vrai. Au fond, bien que ça soit tout près, alors je me suis dit, j'ai été reporter, comme nous tous, dans le temps. J'ai pris mon ticket de métro. Je suis monté à Saint-Lazare, 12 stations. Vous descendez.
Quand ça?
Il y a quelques semaines.
Ah bon?
Oui, parce que ma fille, figurez-vous, elle voulait tout vous dire, Catherine, vous voulez tout savoir.
Ah ben oui,
ma fille qui vit à New York m'a dit, je voudrais bien voir effectivement ce qu'on dit.
Tu l'as amené visiter
On est allé. Alors, bien évidemment, les vieux schnocks comme moi, on s'arrête à la basilique pour voir la nécropole des 43 qu'ont fait la France. Mais après, c'est à quelques centaines de mètres à pied, on entre dans quelque chose qui est une espèce de ville, où il y a effectivement, c'est intéressant, parce qu'il n'y a que des commerces halal, il y a pratiquement pas de gens ayant la peau blanche, mais ça, c'est comme ça. Et puis, il y a des bistrots, mais il n'y a pas de femmes dans les bistrots. C'est un peu comme dans d'autres endroits.
Vous caricaturez pas un petit peu la
journée? Non, je ne caricature pas. Et je vous invite, prenez tous le métro, allez-y, vous verrez ce que c'est que la Seine-Saint-Denis. Si vous retrouvez là-dedans quelque chose qui ressemble à Hollywood, à Big Sur, à San Francisco, aux forêts de Sequoia, etc. Non, mais c'est une rigolade.
Là, tu exagères.
De nous faire croire. Non, c'est une rigolade. Une imposture intellectuelle de nous dire qu'il y a le potentiel en Seine-Saint-Denis de faire la Californie. Voilà,
réponse,
point.
Michel Cotta.
Non, alors potentiel de faire la Californie, non, c'est vrai, c'est exagéré. Il n'empêche que moi, je vois bien se développer en Seine-Saint-Denis, et notamment près du Grand Stade, une série d'installations de grands groupes qui, effectivement, ont leur ministre spécial. Vont chercher leurs salariés au métro et les rapatrient chez eux, etc.
Oui, parce que c'est dangereux d'y aller autrement.
Il y a quelque chose, bien sûr, mais il y a quelque chose qui change.
Tu vois, c'est énorme ce que tu dis là, quand même. C'est que l'insécurité est totale, il faut les amener.
Je dis qu'il y a une volonté d'industrialiser la Seine-Saint-Denis qui se heurte effectivement à la réalité actuelle de la Seine-Saint-Denis. J'ai pas tenté de dire que moi j'ai découvert la mer.
On peut même dire que Madame Pécresse est installée à Saint-Ouen, mais personne ne va la voir et elle a toujours des bureaux à Paris dans le 7e.
Au-delà de cette, parce que ça reste une phrase anecdotique sur cette.
On a retenu que ça.
Est-ce que cette interview nous dit de ce que sera le discours d'Emmanuel Macron dans le cadre de la campagne présidentielle?
Oui, parce que je trouve de toute façon que c'est une interview très intéressante, mais où il prend des risques, parce qu'il raconte en réalité le déclin de la France. Et c'est la raison pour laquelle il pense que la fin ou le début de la fin de la crise sanitaire fait qu'on va connaître... C'est la fin du Moyen-Âge,
et la Renaissance.
Très bien.
Et
c'est la Renaissance. Mais je vous rappelle quand même que la Renaissance, qui a été marquée par un triple fait historique, considérable, la guerre des religions. Saint-Barthélemy, l'assassinat d'Henri III, l'assassinat d'Henri IV en 1610. Mais la guerre des religions elle est notamment dans le département qu'on vient de décrire. Oui. Parce que moi, je veux bien que, si vous voulez, la Seine-Saint-Denis est le département qui compte le plus grand nombre de créations de start-up par habitant. C'est tout à fait exact. Si l'on range, si vous voulez, dans cette catégorie, les points de deal de drogue, là, c'est les start-up spontanées extraordinaires.
Catherine Ney.
Oui, mais vous savez, je pense qu'il a dit ça, cette phrase, pour faire le buzz, pour attirer l'attention.
Ben, il a réussi.
Parce que il a réussi, parce qu'il voulait montrer le côté positif. Mais il savait très bien, vous savez, après le débat, le rapport de François Cornu-Gentil qui disait qu'en Seine-Saint-Denis, l'État n'a pas mis les moyens, ni en justice, ni pour l'éducation et tout ça, Édouard Philippe était venu 6 mois après pour annoncer 23 mesures. C'est vrai que c'est un département, parce qu'on n'arrive pas à mesurer qui est qui. Bon, mais ce député avait vu aussi qu'il y a des rues entières avec des magasins qui ne servent que pour le blanchiment d'argent. Vous voyez, donc c'est quelque chose où terre de contraste, comme on dit maintenant sur les
départements. C'est exactement ce que je voulais dire.
En quelques secondes.
Oui, d'un côté, des start-up, des écoles de cinéma, des écoles de télévision. D'un côté, le football, avec tous les cafés autour du football. Et de l'autre, effectivement, un département parfois en déshérence. Voilà, oui. Mais il bouge, ça bouge.
Avec un grand développement, le racket.
Macron
aime les formules parce qu'il avait dit aussi c'est Cuba sans le soleil quand il parlait de la taxation de 75% des super riches par Hollande.
Merci pour ce rappel. Oui. Dernière pause, on se retrouve dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h. Lionel Gougelot.
Et c'est déjà la dernière partie de ce débat du Grande Voix avec Catherine Ney, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Gérard Carrérou au Rwanda. Emmanuel Macron reconnaît donc la responsabilité de la France dans le génocide de 1994, mais il n'a pas présenté d'excuses à proprement parler.
La France n'a pas compris qu'en voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. En ignorant les alertes des plus lucides observateurs, la France endossait alors une responsabilité accablante dans un engrenage qui a abouti au pire, alors même qu'elle cherchait précisément à l'éviter.
Catherine Ney, est-ce qu'Emmanuel Macron a eu une parole juste jeudi à Kigali ?
Moi, je ne connaissais pas bien le dossier, j'y ai beaucoup travaillé sur ce dossier-là, vous voyez, puis je me suis dit... qu'ont fait les Français au moment du génocide, par exemple. Bon. Alors, c'est vrai que je ne veux pas refaire l'historique. La France a passé les premiers accords en 1975 de coopération militaire avec le Rwanda, à l'époque où c'était M. Rabyimana, là, je n'arrive pas à retenir son nom, enfin, qui était un Hutu, voilà, qui était au pouvoir et qui, en 1990, est intervenu une première fois parce que Kagame, qui était en Ouganda, arrivait avec ses troupes ougandaises pour le sortir du pouvoir. Donc, il y a eu une première opération qui a duré 2 ans et après, les Français sont repartis. Mais là, en 1994, quand le génocide a commencé, après l'assassinat du président rwandais, son avion a explosé quand il a atterri. Donc, et le lendemain, bon, là, le génocide a commencé. C'est-à-dire qu'en 4 mois, il y a 1 million de personnes, vous voyez, le pays compte 8 millions de personnes, 1 million de personnes qui ont été assassinées à coups de machette avec une violence inouïe. Donc, je vous parle d'avril 1994, ça a commencé là. La communauté internationale, l'ONU, qui avait eu des morts, avait quitté le pays au début du génocide. Et là, il fallait faire quelque chose. La France s'est proposée pour faire de l'humanitaire, pour empêcher. Elle est arrivée le 22 juin. Vous voyez, ça a commencé en avril, le 22 juin. Ça veut dire qu'il y avait au moins déjà 500 000 morts. Donc, bon, elle est arrivée et le cessez-le-feu a eu lieu à la mi-juillet, à la fin juillet. Elle est restée à peine un mois et demi. Bon, et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'a pas participé au débat. Est-ce qu'elle a aidé au gouvernement qui était génocidaire Non, elle n'a pas joué dans son maintien, puisque de toute façon,
mais
il est parti après. Mais c'est un allié de la France, parce que la France a toujours soutenu ses alliés.
Ouais. Michel Cotta.
Alors, justement, même avec...
Sur cette notion de parole juste du président
avec
de la République.
Je trouve que la parole est tout à fait juste. Alors, on va peut-être entrer sur, au fond, au-delà du Rwanda, sur ce qui nous préoccupe. Est-ce qu'il faut dénoncer tous les faits dans l'histoire dans lesquels la France s'est mal conduite? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que ce rapport mémoriel est nécessaire pour redonner à la France un regard sur son histoire, mmh. et est-ce oh, qu'elle est nécessaire pour redonner, par exemple, au Rwanda le pouvoir d'approcher les Français mieux qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Moi, je dirais que oui, je trouve que historiquement, il faut reconnaître ses erreurs sans faire du chronisme, c'est-à-dire sans se dire « Ah, la colonisation a toujours été mauvaise. Elle était bonne au début. » On lisait le discours de Paul Adoli.
Là, il n'y a pas de colonisation. Ils n'ont jamais été.
Oui, non, mais justement. Mais c'est
la colonie française.
C'est l'allusion à l'Amérique. C'est le soutien quand même à une certaine partie de l'Afrique. De ce point de vue-là, je trouve que Macron a eu raison de dire qu'au fond, la France-Afrique, c'était terminé.
Je ne partage pas du tout cette propension permanente du chef de l'État pour une forme ou une autre de repentance.
Vous y voyez une sorte de repentance.
Le mot de repentance,
il
refuse le mot de repentance.
Écoutez, je vous dis
responsabilité accablante.
Je vous dis ce que je pense. Ça a commencé pendant la campagne présidentielle en 2017, et ça a commencé où ? À Alger. Ça a commencé avec la dénonciation de la colonisation française comme un crime contre l'humanité. Et ça se poursuit. Je ne partage pas. Moi, je suis plutôt pour les Anglais quand les Anglais disent « right or wrong my country ». J'assume ce qu'a fait mon pays au cours de son histoire. Et on ne gouverne pas innocemment, ça c'est clair. Il y a eu des erreurs, il y a eu des tragédies, il y a eu des zones. Si on commence à sortir de notre histoire. Oui, bah oui.
Qui l'a fait en premier ?
Ça s'appelle la repentance permanente.
Qui l'a fait en premier ? Jacques Chirac.
Et la génuflexion permanente.
Oui, mais 50
ans après. Et on va s'excuser.
Non. Jacques Chirac a reconnu pour la première fois les erreurs de la police française pendant la libération.
Il y a des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec cette idée.
Mais il y a des gens qui étaient plutôt d'accord et plutôt fiers.
Mais la gauche était plutôt d'accord, d'ailleurs. Mais pas forcément toute la droite. Mais enfin bon, c'est un fait. Moi, je ne suis pas d'accord.
Charles Villeneuve, à quoi il va servir ce discours ? Parce qu'on peut penser maintenant aussi à l'avenir et à une réconciliation, un rétablissement de relations plus saines entre la France et cette partie de l'Afrique ?
Moi, je pense qu'en réalité, ce discours a été pré-réglé il y a 10 jours lorsque le chef de l'État français a rencontré celui du Rwanda, c'est-à-dire Paul Kagame. Mmh. Bon. Et tout a été pré-réglé entre les deux chefs de l'État pour une raison simple, c'est qu'il s'est servi de ce discours qui est quand même repentant, qui est quand même repentant, il faut le reconnaître.
Qu'est-ce qu'il faut de plus
Ce qu'il demande d'être pardonné, c'est qu'on a fait une faute.
Parce que, si vous voulez, il a dit « nous sommes responsables, mais pas coupables ». C'est ça qu'il a dit, exactement. Il a repris la fameuse formule.
Pas complice, voilà. Pas complice.
Mais quand tu es complice, tu es coupable aussi, de toute façon. Il est responsable d'être resté, le gouvernement français de l'époque, auprès d'un gouvernement génocidaire. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que dans ce qu'il a dit, le chef de l'État d'aujourd'hui, il y a quand même un début de repentance, indéniablement. Bon. Et tout ça, c'est pour, par rapport à l'Afrique de l'Est, c'est un signal, si vous voulez, que la politique française changera, qu'elle n'est plus, si vous voulez, dans le code de France-Afrique, mais enfin, je ne sais pas très bien comment l'appeler, parce qu'il y a quand même un peu de France-Afrique
une
aussi.
Une nouvelle France-Afrique.
Nouvelle France-Afrique, tout à fait. Et que ça s'adresse aussi à l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est dans un deuxième temps. Voilà.
On aura l'occasion.
Donc, pour moi, tout ça a été pré-réglé. D'ailleurs, Paul Kagame l'a dit, tout ça vaut mieux... ce sont des excuses qui valent mieux qu'une
c'est
repentance.
C'est un discours qui vaut mieux que des excuses. On restera là-dessus pour ce chapitre. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci, les grandes voix. Merci, c'est la fin de cette émission. Je remercie également Jean-Luc Arblade à la réalisation derrière la vitre. Capucine Patouillet pour sa précieuse aide à la préparation de cette émission que vous retrouverez évidemment sur europe1.fr en podcast. La semaine prochaine, vous retrouverez Sébastien Guyot à ce micro. Tout de suite, la table des bons vivants. On retrouve l'ami Laurent Mariotte. Bonjour Laurent, quel est le programme aujourd'hui ?
Bonjour Lionel et bonjour les grandes voix. On va voir du pays encore une fois aujourd'hui. On vous emmène pêcher du côté de Boulogne-sur-Mer. On va récolter de la rhubarbe en Seine-et-Marne.
C'est
et puis on va revoir aussi des classiques du déjeuner dominical à l'occasion de la fête des mères. Tout ça avec Olivier Pouls.
Eh ben à la vôtre les amis, je suis prêt.
Et Yves Candebord.
Eh ben moi je suis au fourneau. C'est prêt.
Et Anne-Sophie Pic sera avec nous.
À tout de suite, merci.
Europe 1.